De toute façon, avec les cycles de l'eau, tu es amené à boire ce que tu as rejeté.
C'est peut-être un peu hippie, mais effectivement, on est sur reboucler le cycle. C'est de dire
Complètement.
que on n'a pas, voilà, on a coupé ce cycle-là où on produit des engrais chimiques d'un côté qui vont venir amender les terres et d'un autre côté, nos excréments sont chassés et sont mis dans l'eau et vont polluer les eaux après qu'on va reboire. Ouais, voilà. Là, ça y a un truc y a un truc qui ne fonctionne.
On trouve en Mésopotamie ou dans l'Empire romain, c'est surtout connu en Europe, dans l'Empire romain, à Rome, des toilettes publiques assez simples. On pense que l'empereur Vespasien aurait prononcé cette phrase célèbre, l'argent n'a pas d'odeur, parce que, en effet, il a mis en place une taxe sur la collecte des urines qui servaient aux tanneurs pour travailler leur peau. Et on a ainsi organisé dans les villes prémodernes, des systèmes de collecte des eaux usées, qui étaient réutilisées d'ailleurs assez systématiquement pour de l'activité artisanale, je pense aux tanneurs, mais surtout pour de l'activité agricole. On a mis en place même à Rome les premières bases de systèmes d'évacuation à côté des systèmes de collecte d'eau pour faire des égouts. Il y a une histoire qui est très ancienne.
Donc si on fait un petit peu d'histoire, c'est au 19e siècle, avec l'essor des grandes villes industrielles et les crises sanitaires, entre autres le choléra, le typhus, que la chasse d'eau se généralise en Europe. Elle s'impose comme une solution hygiéniste, à savoir évacuer rapidement les excréments hors de l'espace domestique. Au 20e siècle, le modèle s'impose comme standard dans les pays industrialisés, eau potable, plus réseau d'égouts, plus station d'épuration. Ce système efficace pour limiter certaines maladies repose cependant sur une logique linéaire, à savoir évacuer et diluer, ce qui rompt les cycles naturels des nutriments. Aujourd'hui, ce modèle est de plus en plus questionné pour son coût écologique, consommation d'eau, pollution, perte de ressources, ouvrant la voie à des alternatives comme l'assainissement écologique. Donc, mais on en revient toujours à cette idée de séparation artificielle entre, je dirais, eau et déchets.
Mais une des raisons pour lesquelles aussi on a arrêté de faire de la collecte d'excréments dans la rue, dans les grandes villes, dont Paris ou Londres, c'est que les terres agricoles étaient de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et ben, en fait, de collecter avec, souvent c'était des personnes qui étaient très mal payées, ça pouvait être assez dangereux comme métier aussi. Et de venir collecter de la merde pour l'amener toujours plus loin, ça n'était plus vraiment pérenne comme situation. Ça y joue quoi. À l'échelle des villes, étant donné qu'il y a une centralisation de la pollution assez importante, on ne peut pas revenir comme avant. Et surtout qu'heureusement, on a un droit du travail maintenant qui fait qu'il y a un taux horaire salarié. Et là, il y aura un problème de rentabilité sur ces systèmes-là. C'est un peu les mêmes questions qu'on se pose aussi sur la collecte des biodéchets. Comment retrier les poubelles? Ben, en fait, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et maintenant, dans notre système actuel capitaliste, ben, hélas, on ne fait pas les calculs de la même façon. Mais moi, je reste convaincue que sur la question de l'urine, si déjà on peut enlever l'urine de nos circuits, c'est possible. Après, donc il y a des études actuelles. Pour parler d'une étude locale, il y a Solagro qui a participé, c'est une association qui travaille sur le développement agricole, le laboratoire de recherche. On réfléchit sur de la collecte d'urine. Si on fait rien que l'aéroport de Toulouse, les collèges, les lycées, le MIT, déjà on peut répondre à 10 à 20% de notre besoin en engrais local. Je pense que ça va être très compliqué à l'échelle de un foyer avec une personne. On va pas s'amuser à créer des réseaux, mais sur des espaces avec énormément de gens à la journée, il faut vraiment qu'on repense tout et il y a un intérêt économique et écologique à repenser ces lieux-là.
Avec l'hygiénisme, avec cette composition d'urbanisation, d'industrialisation, de prise en considération des maladies et des contagions, au 19e siècle, il est devenu nécessaire, eh bien, de gérer non pas ses humeurs, mais de gérer ses humanités, si j'ose dire, hein. Et il a fallu innover ce que de grandes municipalités ont pu faire. Je répète, d'abord Londres et Paris, et ensuite un peu partout sur les territoires en Europe. Alors, quand on dit domestiquer un peu les corps, c'est exact. Je reprends mon petit laïus sur les hommes et les femmes. Mais si vous voulez savoir la façon dont sont pensées les inégalités des hommes et des femmes dans une ville, dans un pays, soyons fous, dans une civilisation, vous regardez les différences de file d'attente aux toilettes publiques. Donc, je ne sais pas si c'est les pouvoirs constituée, mais c'est la façon dont une société se pense, qui se réfléchit à travers les toilettes. C'est aussi valable face à des sujets de vieillissement hein, des populations. C'est valable pour des problématiques d'inégalité extrême quand on prend en compte le sujet des sans-abri. Donc c'est assez étonnant parce que c'est un mix, encore une fois, un mélange de modernité technologique, enfin une sanisette de co, voilà. Ce sont des concentrés technologiques assez impressionnants hein, pour des besoins ultra basiques.
Et alors, qu'est-ce que ça change politiquement de dire que nos excréments sont une ressource ?
La collecte de ces matières-là, c'était quelque chose de complètement normal. En fait, on recyclait absolument tout. L'évolution, la fabrication du plastique et des emballages, ben, ça a fait qu'on a changé notre rapport aux déchets. Mais en fait, il n'y avait pas de déchets. Le moindre petit bout de tissu était récupéré, le moindre verre était refondu, la moindre poterie servait à refaire les routes. Enfin, tout était trié de façon très minutieuse. De reprendre la main et le pouvoir sur nos déchets, dont nos excréments, c'est revenir à un monde qui, pour moi, voilà, est plus durable. Je pense que c'est aussi un moyen de se resensibiliser un peu à ces cycles-là.
Il y a un texte qui date de l'Almanach 1789 sur les matières fécales parisiennes enfin converties en engrais. Je te lis. Le sieur Bridet a été autorisé à dessécher et convertir en poudre propre à former en engrais les matières fécales provenant de la vidange des fosses de Paris. Cet engrais est le meilleur qui soit connu et le plus chaud. Il ne porte aucune odeur, n'altère en aucune façon le goût et la saveur des plantes et est infiniment supérieur au fumier ordinaire, aux cendres de tourbe ou même à la colombine ou fiente de pigeon. Ça t'intéresse ? Faut que tu t'adresses à Sieur Bridet, c'est 105 rue Saint-Martin. Alors on a vu le prix tout à l'heure, c'est 20 sous le boisseau. Et la quantité qu'il faut de cet engrais est ordinairement de 24 boisseaux par arpent de terre. Bah, ça fait une super pub, ça. Pour non, tu veux pas le récupérer en com. Le Sieur Bridet, il est fort en com aussi, quoi.
Et souvent, on en faisait de la poudrette.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent.
Voilà, et donc souvent, quand vous habitez dans un quartier qui s'appelle la poudrette, la poudrerie, souvent, c'est lié au... C'était l'endroit où on produisait de la poudrette à base d'excréments,
oui, parce qu'on pense
d'excréments
pas à ça
animaux.
Du tout, quoi.
C'est vrai, ouais, la poudre fait penser au phare
ouais,
pour les joues.
Ouais. Ouais, la farine à la grande limite.
Non, c'était du caca. Donc, c'est dans Les Misérables de Victor Hugo, tome 5. Le chapitre s'appelle La terre appauvrie par la mer. Paris jette par an 25 millions à l'eau. Donc il parle de sous aussi. Et ceci sans métaphore. Comment et de quelle façon, jour et nuit, dans quel but, sans aucun but, avec quelle pensée, sans y penser, pourquoi faire, pour rien, au moyen de quel organe, au moyen de son intestin. Quel est son intestin? C'est son égout. 25 millions, c'est le plus modéré des chiffres approximatifs que donnent les évaluations de la science spéciale. La science, après avoir longtemps tâtonné, sait aujourd'hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais, c'est l'engrais humain. Il n'est d'aucun guano comparable en fertilité au détritus d'une capitale. Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine. Si notre or est fumier, en revanche, notre fumier est or. Que fait-on de cet or fumier ? On le balaye à l'abîme. On expédie à grands frais des convois de navires afin de récolter au pôle austral la fiente des pétrels et des pingouins et l'incalculable élément d'opulence qu'on a sous la main, on l'envoie à la mer. Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. Des tas d'ordures du coin des bornes, des tourbereaux, des bouts cahotés de la pluie dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de la fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est ? C'est la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolet, du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est la santé, c'est la joie, c'est la vie. Vous êtes maître de perdre cette richesse et de trouver ridicule par-dessous le marché. Ce serait là un chef-d'œuvre de votre ignorance. Si la statistique a calculé que la France à elle seule fait tous les ans à l'Atlantique par la bouche de ses rivières un reversement d'un demi-milliard, notez ceci, avec ces 500 millions, on paierait le quart de la dépense du budget. L'habileté de l'homme est telle qu'il aime mieux se débarrasser de ces 500 millions dans les ruisseaux. C'est la substance même du peuple qu'emporte ici, goutte à goutte, là à flot, le misérable vomissement de nos égouts dans les fleuves et le gigantesque vomissement de nos fleuves dans les océans. Chaque hoquet de nos cloaques nous coûte 1000 francs. Et cela a deux résultats. La terre appauvrie et l'eau empestée, la faim sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve.
Du coup, là, il est clairement question de gaspillage, en tout cas dans ce terme. Et notre système actuel, en fait, il en est assez proche. Nous diluons des nutriments précieux dans des litres d'eau potable pour ensuite les rejeter dans des stations d'épuration, tout en dépendant d'engrais industriels fossiles importés. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'assainissement est aussi une question agricole ?
Tout à fait. Notre question de départ, c'est pas gaspiller l'eau, pas polluer l'eau, mais pour en faire quoi ? Pour mettre sur les terres agricoles. Et on a un gros besoin d'amendement. Nos terres maraîchères sont de plus en plus appauvries par de l'amendement, par de la structure, par de la fertilisation. Et si on rebouclait cette boucle, on arriverait à des terres qui sont beaucoup plus riches et qui produisent aussi plus et plus durablement.
Et vous parlez aussi du coup d'autonomie alimentaire.
Oui, surtout qu'on en parle, on en parle beaucoup, on n'est pas du tout autonome. Hein. Là, il y a donc le détroit d'Ormuz qui est bloqué, voilà, il y a des engrais qui passent par là, et là, on est comme des cons à se dire quand c'est qu'on aura des engrais, comment on va pouvoir amender les terres, comment ça va pouvoir produire pour pouvoir nous nourrir. C'est un gros sujet, c'est qu'au-delà du fait qu'on importe de la nourriture, on n'a pas assez de terres agricoles pour nourrir la population, ou les terres agricoles, elles servent plutôt à de l'export plutôt qu'à produire en interne. Et surtout, on n'a pas assez de matière à remettre sur ces terres-là. Donc, il y a des filières qui se montent et qui existent. Donc, je vous parlais tout à l'heure des filières d'urine, mais aussi sur des biodéchets. Par exemple, il y a le réseau Compost In Situ, qui est un réseau de collecteurs de biodéchets pour remettre sur des terres agricoles. Il y a des filières qui se mettent en place, mais en fait, il faut massifier ces filières-là pour qu'on puisse arriver à ce que on n'ait pas besoin d'importer et de produire des engrais chimiques qui n'ont pas du tout, où la terre n'a pas du tout la même réceptivité. Voilà, je vais essayer de faire attention à mes mots parce que je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais un engrais chimique n'aura pas du tout le même fonctionnement en contact avec la terre qu'un engrais naturel, oui, que du pipi, quoi. Ça ne va pas faire la même chose. Et au-delà, en fait, aussi de l'engrais, qui a quelque chose d'assez immédiat avec la plante où ça va la faire pousser, il faut structurer les sols. Et structurer les sols, c'est mettre de la matière, quoi. Et effectivement, nos matières fécales, nos biodéchets, a un pouvoir structurant pour les sols et durable.
Les engrais, c'est ce qui permet de faire pousser les plantes en apportant un nutriment essentiel, l'azote. Il y a des engrais naturels, comme l'urine, le compost, les déjections, et il y a des engrais chimiques qui sont fabriqués dans des usines très polluantes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'industrialisation de l'agriculture, notre consommation d'engrais chimiques a explosé. Et aujourd'hui, ça crée de vrais problèmes en termes de santé humaine, environnementaux, mais aussi pour le climat. Tout ça, ce n'est pas la faute des agriculteurs. Comment refuser un produit qui permet de multiplier les rendements, qui est peu cher à l'époque, et surtout dont on connaissait peu les risques. Résultat aujourd'hui, la France est le premier consommateur d'engrais chimiques de l'Union européenne. Une partie des engrais chimiques qui sont déposés sur les sols agricoles se volatilisent sous forme de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre presque 300 fois plus réchauffant que le dioxyde de carbone, ce fameux CO2 qui réchauffe la planète. En France, l'agriculture, c'est le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre et presque la moitié des émissions de l'agriculture sont dues aux engrais chimiques. Et encore là, je ne vous parle pas de toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'il y a sur la phase de fabrication des engrais chimiques. Pour fabriquer ces engrais, on a besoin de gaz, alors qu'on sait aujourd'hui que pour respecter l'accord de Paris, il faut mettre fin à l'exploitation des énergies fossiles. Bref, on a un business qui n'est pas du tout compatible avec l'urgence climatique. C'est vrai qu'en plus de l'impact sur le climat, il y a un impact fort sur l'air et sur l'eau. Sur l'air déjà, parce qu'une partie des engrais chimiques qui sont appliqués se volatilisent dans l'atmosphère sous forme de particules fines qui sont en partie à l'origine de pics de pollution qui sont très dangereux pour la santé. Mais ils polluent également les cours d'eau. Et en France, il faut savoir qu'on paye jusqu'à 500 millions d'euros par an pour dépolluer l'eau à cause des fertilisants comme les engrais chimiques.
En fait, à la Première Guerre mondiale, on a produit des bombes à base d'azote. L'azote est très inflammable et extrêmement puissant. Donc on a produit ces bombes-là. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Toulouse très impactée par cette production d'armes. Et à la fin, on a ces usines-là et on ne sait pas quoi en faire. Et là, tout d'un coup, quelqu'un dit « Mais oui, mais l'azote, on en a besoin pour la terre. On en a besoin pour faire pousser des plantes. » Et donc on crée ce système-là d'engrais chimiques, et en fait sur le coup ça a des rentabilités qui sont assez intéressantes, qui sont vraiment voilà, très, très importantes, mais en fait c'est très dangereux pour l'humain. Et donc AZF en est un sujet, c'est que c'est des usines qui sont très dangereuses pour les travailleurs et les travailleuses. Et maintenant cette production, en fait, elle se fait plutôt ailleurs. Mais surtout qu'il n'y a pas que l'azote, il y a aussi par exemple le phosphore, on en a besoin et les plantes en ont besoin. Les mines de phosphore, il y en a très peu dans le monde. Une des plus grosses est dans le Sahara occidental, qui est un territoire occupé que l'ONU défend chaque année, et c'est un territoire qui est occupé illégalement. Pourquoi ? Ben, en fait, c'est parce qu'aussi on a besoin de ces ressources. Donc comment on crée un climat de guerre ? Juste pour cette question, effectivement, d'avoir accès à ces minerais-là qu'au final on a sous la main, mais qu'on n'utilise pas pour juste se faciliter la vie et enrichir une poignée de personnes qui ont tout intérêt à rendre dépendants à les agriculteurs à ces ressources-là. Let me wash myself from my words.
Que tu penses que ça viendra par le compost ? Là, je m'en rends bien compte, les villes doivent, il y a des lois, elles doivent s'adapter. À Toulouse, il y a des composts de villes qui sont apparus, alors que dans d'autres pays, ça existe depuis beaucoup plus longtemps.
Moi, je trouve que c'est un très bon parallèle, parce que pourquoi ça a avancé la question du compostage et qu'on est sorti du militant qui bénévolement gérait son composteur et avait invité ses voisins, c'est parce que la loi a bougé.
Ouais, c'est ça.
Et étant donné qu'il y a eu l'obligation légale de trier à la source les biodéchets et de les valoriser, tout d'un coup les collectivités se sont dit « Mais merde, faut qu'on mette des choses en place, qu'est-ce qu'on fait ?» Les collectivités les plus engagées ont mis en place des composteurs partagés, parce que c'est du lien social, parce que ça ne déplace pas la matière, parce qu'on a besoin quand même de compost, même pour les espaces verts, en fait. Et Et les communes qui avaient un peu la flemme, elles ont mis des points d'apport volontaires où juste les gens ils déposent leur bio-seau et ça part en méthanisation ou ça part en compostage ailleurs. Et les deux solutions aussi peuvent se combiner sur des espaces où on ne pourrait pas réutiliser le compost sur place. Mais c'est un très bon parallèle, c'est que le compost, ça pue, ça ramène des rats. Mais on a inventé des objets, on a développé des objets avec des grilles anti-rongeurs. On a mis de la signalétique en disant si ça pue, recouvrez de broyat de bois, c'est que voilà, où c'est qu'il faut remuer. On a inventé des protocoles qui font que tous les sujets étaient crispants et qui n'aidaient pas à avoir un changement de comportement, ben on les élucide les uns après les autres par de l'intelligence collective, par de l'éducation populaire. Et je pense que on pourrait arriver à la même chose et que si on arrivait à un moment où on se rêvait à se dire mais si on arrivait les déchets de toilettes sèches à compostage rentrer dans la norme et avoir le même code déchets que les biodéchets. Donc pour les biodéchets, il y a pour qu'il y ait une hygiénisation de la matière, il faut que ça suive un temps et une température. Donc j'espère que j'ai des bons souvenirs de ça. Par exemple, 6 jours à 60 degrés. Il faut que ça soit 6 jours à 60 degrés pour qu'on soit sûr que la matière, il n'y a plus de pathogènes à l'intérieur. Et on s'est dit, mais c'est exactement les mêmes besoins que pour du compost de toilettes sèches. On n'a pas... si on fait 6 jours à 60 degrés, on est sûr que les pathogènes qui peuvent être dans nos excréments auront disparu, seront morts de leur belle mort. Et donc, on pensait ça et on s'est dit, mais si ça rentre dans la norme, si on arrive à rentrer dans la règle, ça veut dire qu'on pourrait amener notre seau de toilettes sèches dans un site de compostage partagé. Et tout ça, en fait, ouais, ça peut bouger avec la norme, les mentalités, les objets. Oui, c'est possible. Et c'est vrai que y aura toujours, dans ce cas-là, il y aura toujours ceux, les vrais militants, avec leurs petits seaux de toilettes sèches qui iront dans leur composteur de pied d'immeuble pour vider leurs toilettes. Il y aura ceux qui diront « Ah non, moi ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas le temps, c'est trop d'énergie, c'est trop de travail, je continue à tirer la chasse d'eau. » Et puis il y aura ceux qui n'auront pas eu le choix parce que leur immeuble aura été converti et que c'est une obligation et que c'est dans l'acte de la copropriété qu'il faut le faire. Enfin voilà, nous on pousse à ce que même des petites choses, ça fait changer les mentalités, même des toutes petites choses, et de faire des choses qui sont faciles, pratiques, reproductibles.
Au niveau des résistances, c'est le quasi monopole en fait industriel de ce qu'on peut considérer comme des lobbies en fait. Pour le tri des déchets, c'est un business incroyable.
Nos déchets sont devenus
exactement.
Un business, ouais.
Donc tu te heurtes aussi à des filières qui vont pas se réjouir de perdre en gros de l'argent de toute façon quoi.
Ouais.
Là c'est pareil, ça fait fonctionner toute la filière autour de l'eau. Enfin je veux dire, c'est un vrai sujet au niveau des villes, la gestion de l'eau.
Mais oui, et surtout que c'est de la compétence de l'agglomération, et il y a des gros enjeux industriels sur les réseaux et financiers, il y a des gros enjeux légaux aussi sur la qualité de l'eau en sortie. Il va y avoir de plus en plus d'enjeux parce que face à la raréfaction de l'eau, il va falloir qu'on change les critères de qualité, et on se retrouve avec des stations d'épuration sous-dimensionnées qui sont pleines. Et les eaux qui sortent, de toute façon, sont beaucoup trop chargées par rapport aux conditions écologiques dans lesquelles on est actuellement. Donc oui, on va se heurter, ça c'est sûr, et on a des lobbies qui sûrement nous dépassent. Like this.